Salut Nathanaël Fournier.
Bonjour Ziad.
Merci de m'accueillir ici. On est au Fabuleux Destin à Aubusson où tu as inauguré il y a quelques jours une exposition photographique qui s'appelle Sur un plateau.
Oui, sur un plateau parce que c'est une photo constituée de photos de tournage.
Une expo, oui.
Oui. Et je suis plutôt un photographe de rue, mais je fais aussi des reportages et des photos de tous les jours dans la vie. Et quand j'ai la chance d'être sur un tournage, vu que le cinéma, ça m'a toujours fait rêver, je fais des photos.
Et il y a peut-être aussi un jeu de mots avec le plateau, j'imagine, parce que quand on voit l'affiche, on va en parler, et quand on sait où on est, on se dit immédiatement qu'on est pratiquement sur un plateau.
En fait, j'avais prévu cette exposition au printemps, et j'avais trouvé le jeu de mots parce que je devais exposer sur le plateau à Vallières. Et ça ne s'est pas fait, mais ça va peut-être se faire plus tard. Et comme ça devait être dans un restaurant, sur le plateau, des photos de tournage, je trouvais que c'était une bonne accroche. Et sur un plateau, ça attire l'œil forcément. Les gens de Creuse auront envie de voir de quoi il s'agit. Et ça fonctionne très bien.
On est au milieu de la salle. Là, on est en semaine. Il n'y a personne au Fabuleux Destin qui ouvre. Il y a quelqu'un qui veut rentrer. C'est ça, tu me montres, ouais. Bon, en tout cas, normalement, c'est fermé. C'est pour ça, d'ailleurs, aussi que ça résonne. On est entouré de tes photos. Alors, première chose qu'on remarque, ce sont des tout petits formats ou des petits formats qui occupent deux murs, c'est ça ? Oui. Deux murs.
Quand on a parlé d'exposition ici, il n'y avait pas encore la partie scène recouverte de tissu noir. Et les travaux ont été faits pendant la pause hivernale. Et on m'a dit, si tu veux faire l'expo, c'est possible, mais il n'y aura plus que deux murs. Je fais, bah écoutez, ça tombe bien parce que mon expo n'est pas très grande, il y a 14 ou 15 tirages, ce qui est une petite expo. Et ça convient parfaitement. Et quand j'ai fait l'accrochage, j'avais rien calculé à l'avance. Je suis arrivé, j'ai disposé les photos et tout rentre parfaitement. Et ça rend vraiment très bien.
Et donc ce sont des photos de tournage. Tu l'as dit, toi, tu es plutôt un photographe de la vie, de la rue. Mais bon, le tournage, c'est aussi... Les tournages, ce sont aussi des moments de vie. Tu peux peut-être nous dire, pour commencer, on va parler de ta démarche, de me dire quelques mots des tournages, justement, que tu as photographiés. Il y en a trois, c'est ça ?
Il y a trois tournages différents. Un en Corse et deux en Creuse. Et le premier en Corse, c'était par hasard, je faisais des vendanges avec des amis. Et une copine... devait faire son film de fin d'études d'une école d'art. Et elle a fini par nous dire, écoutez les copains, j'ai besoin d'un coup de main, voilà, j'ai une idée de film, le décor est parfait. C'est vrai, on habitait dans une maison en ruine, dans une vallée abandonnée, au milieu de montagnes rocheuses. La lumière était trop belle parce que c'était déjà presque l'automne. Et on a tourné ce film en une semaine, tous les après-midi après le travail. On a fabriqué les costumes sur place. Donc il y a un épouvantail qui fait un peu peur. Les étables de la maison en ruine, le paysage majestueux, et la lumière était parfaite. Donc on a tous donné un coup de main, et moi j'ai photographié comme je fais des photos à peu près tous les jours, c'est-à-dire au début un peu timidement, et après un peu plus franchement. Et les deux autres tournages, donc c'est ma compagne et documentariste, elle s'appelle Maud Soubéran. Elle a fait un film qui s'appelle Embrasse la terre pour semer des étoiles, à propos et avec René Bourdet, qui était un poète paysan du nord de la Creuse, qui habitait vers Gouzon. Et je l'ai rencontrée, elle était en préparation de ce film. Et je l'ai accompagnée sur les tournages, j'ai rencontré René. Et par exemple, la photo, le portrait de René, j'ai vu le personnage et la deuxième journée que j'ai passée avec lui, il était assis à une table en extérieur à regarder les préparatifs. Il signait des petites brochures de poésie anarchiste qu'il préparait. Je me suis approché de lui et j'ai fait, écoute René, là je vais te prendre en photo assez près. Et comme c'est un homme de scène, il a vraiment fait un geste de politicien, et la photo est parfaite. Vraiment, on pouvait pas faire mieux. Il pose parfaitement, il savait ce qu'il faisait. Et ça se voit, il fait un petit geste... Il montre du doigt, rien du tout. Il fait vraiment un petit geste de politicien. J'ai déjà vu ça une fois, Pierre Mauroy qui m'a fait pareil. Et Monsieur Mauroy, j'ai fait une photo, et il a fait un grand geste de dirigeant, comme ça, vers l'avant. Et je crois que c'est souvent... C'est pratique pour se mettre en scène, et ça fait des images très vivantes. Et j'ai photographié quelques autres parties du tournage, dont... Qu'est-ce qu'on voit ici, dont Jean-François de Lavoiselle qui est venu donner un coup de main. Et la photo de l'affiche de l'exposition, c'était pendant une partie du tournage. On reconstitue une scène de l'enfance de René. Et un paysan d'Ain, qui s'appelle Monsieur Grison, nous a prêté sa vache. Il l'a fait tourner. C'est-à-dire qu'il lui donnait des indications, il lui donnait des friandises. Elle faisait à peu près ce qu'il fallait. Et on a même pu laisser le petit garçon, qui avait 5 ans à l'époque, le petit Johan, tout seul avec la vache, même s'il n'était pas rassuré. Et la vache a été super sympa, elle a meuglé quand il fallait, c'était parfait.
On pourra retrouver cette photo sur le site de Radio Vassivière. On peut aussi retrouver, je crois, l'ensemble de tes photos sur ton Instagram, ouais. C'est ça, qui est Nathanaël Lille. Nathanaël de Lille, donc de Lille, la ville, hein, puisque ouais. c'est là que tu habitais avant, c'est ça?
Parce que je viens de Lille et que Nathanaël Fournier s'était déjà pris. Oui, ça marche très bien.
Sur cette image donc, de l'affiche qu'on peut trouver sur le site de Radio Vassivière, on voit alors, le sol hein, qui occupe presque les 4/5, en tout cas bien les 3/4 de l'image. Donc c'est tout noir, ça donne vraiment une idée d'un plateau. Hein,
c'est tout noir, mais quand on voit le tirage de près, on voit, vu que c'était la fin de journée, c'est quand même en contre-jour. C'est sombre parce que c'était sombre et c'est tout noir, mais il y a de la matière. On voit l'herbe et les bouches de vache, mais la matière de la prairie.
Et il y a vraiment cette idée comme si on était sur un plateau qu'on voit d'en bas, hein, un plateau de tournage, mais aussi le plateau naturel, le plateau du Limousin, le plateau de 1000 vaches. Et donc au loin, on voit donc une vache, on voit quelqu'un qui semble tenir comme une faux, mais en fait c'est une perche avec un micro, c'est ça?
C'est quelqu'un qui est venu donner un coup de main, je ne sais plus comment il s'appelle, Aimé je crois, qui est venu nous donner un coup de main et qui faisait percheur son, comment on dit? Qui tenait la perche, ouais. Donc, qu'on voit pas dans le cadre, normalement. Il y a Monsieur Grison qui, justement, jette une friandise à sa vache.
Qui est donc, on dirait Louis de Funès dans un film. Il est complètement courbé, tout petit, de loin.
Il y a sa femme qui monte péniblement derrière. Mais en fait, de Claudine, dès qu'on la met sur un tracteur, on dirait une guerrière. Et il y a, je pense que c'est Maud et Hassan, qui étaient venus donner un coup de main pour le cadrage, qui sont juste à côté de la vache. Et ça fait, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 silhouettes en contre-jour, en haut de la photo comme ça.
Un contre-jour qu'on retrouve sur pas mal d'images, pas du tout sur toutes, hein, mais qu'on retrouve sur l'image d'à côté, qui est elle prise au Grand Café. On voit un personnage qui entre au Grand Café de Feltin, qui est en contre-jour.
Là, c'est Tom Gilles, qui est cinéaste, et que tout le monde connaît comme étant un des bibliothécaires de Feltin et d'Aubusson, qui m'avait demandé si je voulais bien participer à un de ses courts-métrages. Donc j'étais censé être figurant ou acteur. Donc je lui ai donné un coup de main à amener tout son matériel dans le Grand Café, qui était fermé ce jour-là. Et je me suis dit, je ne vais pas réussir à jouer. Donc j'ai dit, écoute, je vais faire des photos. Je vais te donner un coup de main quand tu as besoin, mais je vais juste faire des photos. Et on attendait l'arrivée des acteurs et des figurants. Et là, à ce moment, c'est Mathieu qui rentre dans le Grand Café. Il n'est pas encore du tout habillé comme il devrait l'être en 1940. Et le seul élément qui n'a vraiment rien à faire là dans la scène, c'est la machine à écrire qui a été installée, c'est un accessoire pour le film.
Machine à écrire ancienne sur une table, une des tables du Grand Café qu'on voit.
Oui, et ça fait cette photo, même si je la montre des fois sans dire que c'est une photo tournage, parce qu'en fait, moi je sais que c'est sur un tournage, et on attendait quelqu'un, mais c'est pas pendant que le film se faisait, et c'est vraiment quelqu'un qui rentre dans le café tel quel. Sauf que d'habitude, il n'y a pas de machine à écrire.
On peut dire que pour presque les deux tiers, peut-être les trois quarts des photos, quand on les regarde, on ne se dit pas du tout que ce sont des photos de tournage. T'es d'accord?
C'est vrai. Oui, on ne voit pas les accessoires de cinéma. Oui.
D'ailleurs, la photo de tournage, c'est un peu un passage quasi obligé du tournage qui va servir à faire la communication. C'est un petit peu comme la photo de mariage, quoi. Ça pourrait être considéré un petit peu comme la photo de mariage, c'est-à-dire un exercice obligé. Et pour le photographe aussi, un passage obligé, faire des photos qui documentent et qui permettent de communiquer. Toi, tu as une démarche, tu as choisi d'avoir une démarche artistique. Ouais, tu dis non?
Pas vraiment, parce qu'en fait, photographe de plateau, c'est un métier. Et avant, ça servait, le photographe de plateau, doubler les images que prenait la caméra pour en tirer des images de la promotion et pour mettre en beauté les vedettes, les actrices et les acteurs.
Qu'on affichait à l'entrée des cinémas.
Et les photos qu'on voyait avant dans les cinémas, c'était toujours des photos faites par un photographe de plateau. Ce n'était pas des photogrammes tirés du film. Et je l'ai su il n'y a pas longtemps, c'est un bon enseignant. Et moi, je suis allé sur ces plateaux et j'ai participé à ces films comme un reporter. Comme quand je fais des photos dans la rue, comme quand je vais à la page ou... Où partout où je peux faire des photos, je suis là comme un reporter, je regarde ce qui se passe. Des fois, je fais des photos, des fois, juste je regarde en me disant « Ah, ça aurait pu être une photo ». Et j'attends le moment où je peux faire une bonne photo.
Comme un reporter, mais aussi, tu essayes d'avoir un regard quand même artistique sur le monde qui t'entoure, ou même là, en l'occurrence, sur des plateaux de tournage.
Les reporters que j'aime bien sont des artistes. Les plus grands reporters de chez Magnum sont des artistes. Il se présentait pas comme artiste, il se présentait comme photographe. Mais pour qu'une photo soit efficace, qui est un drôle de mot mais que j'aime bien utiliser pour ça, elle doit être bien composée, bien pensée, elle doit parler à l'œil, elle doit plaire à l'œil quand on la voit. Ça doit pas être compliqué de lire les informations. C'est un langage qui doit être simple et qui est censément universel, la photographie.
Pour essayer de préparer cette émission et comprendre ta démarche, j'ai regardé ton site où tu te présentes, tu écris ceci, on va lire ta bio et puis tu peux commenter, ou en tout cas ce que tu présentes comme ta bio qui est succinct. Avant même de commencer à photographier, je passais déjà beaucoup de temps à marcher en ville, dans l'île d'où je viens. Je taguais la nuit, gérais la journée. Un jour, j'ai emprunté le compact argentique de ma petite amie. Je n'ai jamais arrêté de photographier depuis.
Ouais, j'ai commencé à faire des photos parce que je voyais beaucoup de choses dans la rue, parce que je taguais, que je regardais tout ce qui se passait sur les murs, que Lille était la ville la plus taguée de France à l'époque. Et aussi que dans toutes les pérégrinations dans la ville, je voyais les gens, je voyais des choses qui se passaient, je voyais des choses tristes, des choses belles, je voyais de la vie de toutes les rues où les touristes ne passent pas, et de toutes les rues hors du centre-ville aussi, mais aussi dans le centre-ville. Et j'avais toujours des histoires à raconter le soir. Et j'ai commencé à faire des photos parce que dans la rue, entre chez moi et chez ma copine, il y avait quelques kilomètres à faire à pied. Et je voyais des graffitis, entre guillemets, historiques ou des fresques, se faire effacer par les services de nettoyage ou se faire repasser. Et je disais, ah, il y avait ça avant, là, ça a disparu. Et encore deux jours, il y avait ça décrit sur le mur. Et un jour, je me suis dit, je vais le prendre en photo. Et ça a commencé comme ça.
Donc une forme de mémoire ou d'archivage de ce que tu voyais.
Oui, j'ai même fait un blog à l'époque d'archives du graffiti à Lille, avec des centaines et des centaines de photos, mais j'ai perdu tous ces négatifs dans une perquisition. J'ai été arrêté en flagrant délit pour graffiti, et j'avais pas d'appartement, mais mes affaires étaient chez un copain, et le papa était mis au courant de la perquisition, et il a regardé tous mes négatifs, il était gendarme, il a regardé tous mes négatifs, il les a mis dans une poubelle, il les a brûlés pour pas que ça soit retrouvé chez lui. Et ce qui est drôle, c'est que depuis, il est devenu photographe. Et il m'en a parlé de cette histoire. Il m'a dit, ça m'a déclenché l'envie vraiment de faire des photos. Et il est devenu photographe et il est très fort dans ce qu'il fait aussi.
Ça doit être douloureux quand même. En tout cas, c'est quelque chose que tu dois avoir du mal à digérer, la disparition de ces archives, de ces images qui justement étaient là pour témoigner.
Oui, j'ai perdu deux ans ou trois ans de photos. Et comme je faisais beaucoup, beaucoup de photos tous les jours, ça faisait déjà un sacré nombre de négatifs.
J'ai commencé par les murs et ce qu'on appelle aujourd'hui le street art, donc que toi t'appelles les tags ou tagués, enfin ou ce que tu veux. Après quelques publications et une exposition, j'ai découvert dans les livres que l'on pouvait aussi photographier les gens, les passants, la vie de tous les jours.
Oui, je ne connaissais rien du tout à la photographie les deux premières années où je photographiais. Et je passais pas mal de temps avec des gens qui vivaient dans la rue, des clochards, des punks à chiens. Et j'ai photographié par hasard un jour un type qui a surgi d'un buisson, déguisé en Père Noël. Et c'est devenu une sorte d'ami, on ne parlait jamais. Hein. Lui, il était un peu fou, complètement marginal. Il passait ses journées à déambuler dans l'île. Les trois mois autour de Noël, il était déguisé en Père Noël. Il chantait Johnny Hallyday toute la journée. Et c'est la première personne que j'ai photographiée dans la rue. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait une histoire de la photographie et une histoire de la photo de rue assez conséquente, et qu'on pouvait photographier les passants. Et au début, ça n'a pas été facile. C'est pas facile d'approcher les gens ou les photographier, même à la sauvette, comme dirait Henri Cartier-Bresson. Mais je me suis rendu compte que c'était ce qui me plaisait encore plus que de documenter juste le graffiti. Et c'est ce que je fais depuis presque 20 ans maintenant.
Tu fais à la sauvette ?
Ça s'appelle à la sauvette, oui.
Mais tu te caches, en fait tu...
Non. Je suis discret. Quand je suis vraiment... Je passe plus assez de temps à faire des photos. Avant, je passais 8 heures par jour en ville à faire des photos. Ça devient une sorte d'exercice zen à un moment. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à s'ennuyer. On rate beaucoup de photos, on marche beaucoup. Et il y a un moment où tout se déclenche, tout se met bien et on se faufile et on peut être invisible. Je l'ai retrouvé à prendre en photo des gens à 1 mètre ou 50 cm de leur visage, et ils ne m'ont pas vu. Pourtant, j'étais en face d'eux. Et il y a aussi quelque chose où il faut se mettre en adéquation avec l'énergie des gens qu'on rencontre, et ça fait que quand on est dans un bon rapport d'énergie, je ne sais pas comment le dire autrement, qu'on dégage des bonnes ondes, tout se passe bien et on se faufile entre les gens. Et c'est pas vraiment caché. Voilà. J'essaie d'être discret et j'ai un appareil qui me sert à ça aussi. J'ai plus d'appareil qui fait... Enfin si, j'ai encore des appareils qui font du bruit, mais un Leica c'est plutôt discret. Et c'est pas... Quand on se cache, on est un petit peu suspect. Et j'ai déjà vu... À un moment, je suis passé du temps à Bruxelles et j'ai vu une photographe s'approcher de moi et se cacher derrière tous les piliers de la rue pour nous prendre en photo, moi et ma copine. Alors qu'on était juste assis à rien faire sur un banc. Je me suis dit, ah ouais, en fait, on ressemble à ça, les photographes de rue. Et ce qui est fou, c'est que la fille, on lui a fait un signe de tête. Elle a vu qu'on avait des appareils photo et elle n'a pas osé venir nous parler. Elle nous a pris en photo de loin avec son zoom et puis elle a cavalé dans l'autre sens.
En général, c'est pareil en radio, la relation qu'on a avec notre sujet est le reflet de la relation qu'on a soi-même avec ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que si on est à l'aise et qu'on est vraiment dans l'échange, ben, ça se sent. Et si on est planqué et qu'on a peur, et ben, ça se sent et ça déclenche des réactions un peu négatives. Quoi.
Oui, j'ai fait un boulot qui m'a beaucoup aidé, mais je ne m'en rendais pas compte sur le moment, c'est que j'ai été distributeur de journaux gratuits. Donc je suis planté à la sortie des métros avec des métros, des 20 minutes. Et il faut réussir en 2 heures à donner un stock de centaines et centaines de journaux aux gens qui passent, qui en reçoivent toute la matinée, qui n'ont pas forcément envie de prendre encore un tas de papier. Et tu es obligé de parler à des centaines de personnes tous les matins. Et ça aide un peu pour l'approche des gens dans l'espace public. C'est pas mal.
Tu parles de ton appareil qui est discret et qui, voilà, que tu portes. Et la première chose que tu as fait en arrivant, c'est prendre ton appareil. Quand tu t'es assis, tu l'as posé à tes pieds comme si c'était ton chien, ton animal. Ouais, il était posé gentiment à tes pieds. Là, tu l'as repris dans tes mains.
En fait, je l'ai pris parce que je me doutais qu'on allait peut-être en parler un moment. Et aussi, j'ai fait le réglage pour te prendre en photo subrepticement un moment. Comme ça, il est à peu près réglé, là. Et parce que c'est quand même c'est un appareil qui a 40 ans, qui est à peine plus jeune que moi, qui vient d'une longue lignée d'appareils photo que les plus grands photographes et que tous les photographes que j'aime bien ont utilisé, et qui est relativement discret. C'est-à-dire que le mien, il commence à être usé, il fait du bruit, mais normalement, ça fait un bruit que dans une foule ou en ville, on n'entend pas du tout. C'est même pas un claquement de doigts, beaucoup moins. Alors que les gros appareils photo et même les gros numériques font un bruit phénoménal, on peut se retourner dans la rue. J'ai déjà été arrêté par la police parce que je prenais en photo une opération de police, on n'a pas le droit de faire ça, et mon réflexe a fait un bruit de marteau quoi, dans le silence de la rue. Donc tous les flics se sont retournés, j'ai fini en garde à vue. Quoi.
Il fait quel bruit, vas-y. Fais voir.
Je vais te prendre en photo pendant que tu...
Et moi je te mets le micro dessous. Ouais, c'est discret quand même. Ouais.
Normalement il est censé en faire beaucoup moins.
Je continue à te lire. Je suis resté fidèle à l'argentique, donc pour les personnes qui ne connaissent pas, je ne sais pas si ça existe, mais c'est donc les vieux films, hein, c'est contrairement au numérique, et à une approche que m'a enseigné un ami du graffiti, fait simple et efficace. Et c'est vrai, il s'agit juste d'être prêt et de montrer le monde qui m'entoure et ceux que je croise.
Oui, il ne faut pas, comment dire, il n'y a pas besoin de chercher loin pour faire des photos. On peut aller à l'autre bout du monde et faire des photos, en ramener des belles images. Et on peut sortir de chez soi, marcher 20 mètres et trouver de quoi photographier, que ce soit un voisin, un passant. Moi, je sors de chez moi, je suis au bord de la Creuse, dans Aubusson, donc c'est assez joli. Mais on peut faire des photos à 100 mètres de chez soi toute sa vie. Il y a des gens qui ont quasiment fait ça. Il y a un grand photographe américain qui a fait ça. Il a passé toute sa vie dans une petite ville de la banlieue et il a fait marque... je sais plus son nom. Et il est incroyable, et dans une ville où il n'y avait pas tant de vie que ça, mais il photographiait que sa ville et son quartier.
Ce que je remarque quand même, c'est que ton approche de la photographie, c'est une approche urbaine. Quand tu parles de la photo, tu parles des passants, tu parles des rues. Et paradoxalement, tu as fait le choix de t'installer à la campagne, dans une des zones les moins peuplées de France. Ouais. Alors, tu vis dans une petite ville, mais quand même, dans ton quotidien, tu croises moins, tu as moins de rues, tu as moins de cette relation à l'urbain. Comment tu as fait ce choix et comment tu le vis ?
J'ai pas tout à fait choisi d'arriver en Creuse. Je me suis vite rendu compte que je photographiais, au bout d'un an ou deux, j'habitais dans un tout petit village de 10 maisons, près de Guéret, qui s'appelle Saint-Thierry-les-Bois. Et à Tigoulé, dans le hameau, il n'y avait vraiment personne. Et je devais faire 10 km à pied pour aller boire un café, pareil pour aller faire des courses. Et je me suis vite rendu compte que je commençais à prendre en photo des arbres et des vaches. Et que ça ne m'intéressait pas tant que ça, le résultat. Et après, je me suis installé à Moutier-Dain, où il y avait un peu plus de vie, mais il y avait les confinements. Et après, je me suis dit quand même, je pourrais peut-être habiter à Aubusson, à Feltin ou à Bourganeuf. Parce que de là, je peux prendre des bus pour aller en ville et parce que je serai en ville aussi. Et ça, j'ai cherché à Aubusson d'abord. Et j'ai trouvé un appartement pas trop cher, qui me plaisait. Et Aubusson, c'est chouette parce que comme moi, je ne conduis pas et que j'ai pas le permis, je fais tout en bus et en transport en commun, en train. Et Aubusson, je peux aller à Clermont, Montluçon, Ussel, Limoges. Et prendre des trains et des bus très facilement. Voilà. Et je peux me promener un peu dans Aubusson, mais je crois que maintenant toute la ville sait que je suis le type qui fait des photos et il y a des gens qui changent de trottoir.
Et donc, dans ta routine ou dans ton quotidien, tu prends des bus régulièrement pour aller faire des photos sans savoir ce que tu vas photographier dans les villes alentour.
Oui, je découvre comme ça les villes autour de la Creuse. Je me promène dans des villes que je connais pas du tout, que je commence à connaître maintenant. Par exemple, Montluçon, là, j'en parlais ce matin avec un type dans le bus, parce que je suis arrivé de Feltin en bus. Et lui, il allait on a parlé de Montluçon et de Clermont, et il me parlait d'endroits, je fais, oui, mais je connais pas les noms. Donc, à vol d'oiseau, je sais à peu près où je vais. Je sais que si je marche 2 heures dans telle direction, il me faudra autant de temps pour revenir et que j'aurai assez de temps pour reprendre le bus pour rentrer le soir. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon tireur aussi. J'ai rencontré un tireur imprimeur à Montluçon. En me prenant au hasard, et j'ai vu sa boutique, et puis la fois d'après, quand je suis revenu à Montluçon, bah, je suis allé lui dire bonjour, j'ai expliqué qui j'étais, ce que je faisais, et puis s'il voulait bien faire un test, et c'est lui qui tire toutes mes photos depuis.
Dernière phrase de ta bio, de ta très courte bio qu'on trouve sur ton site, « Je vis dans un grand pays appelé Wonderland », ce qui peut-être résume tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tu vis dans ton propre pays, finalement, que ce soit à la campagne ou à la ville. Et Wonderland, on traduit, c'est...
C'est la quête, mais c'est aussi l'errance. Parce que la photographie de rue, la photographie urbaine, comme je la pratique, à un moment, en français, je crois dans les années 70 ou 80, on l'appelait l'errance urbaine. Oui, j'aime bien dire 70. Et j'étais le premier à utiliser ce mot Wonderland parce que j'utilisais pour une série de photos de rue que j'exposais l'an dernier un peu partout en Creuse et à la médiathèque de Feltin. Et ça fait un petit jeu de mots avec Wonderland. Et Wonderland, ça fait aussi la... C'est comme dans le Wanderlust en allemand, il me semble. C'est la recherche d'aventure et se laisser aller à l'inconnu. Il y a un peu de ça dans l'errance. Et comme j'ai dit en rigolant que la Creuse, en fait, pour moi, bah, je suis obligé de considérer ça comme une grande ville. 100 000 habitants, 130 000 habitants, c'est pas mal. Mais très étalé. Et il y a des très grands parcs entre chaque quartier. Voilà. Et c'est un peu comme ça que je vois aussi tous les endroits où j'ai vécu, en France, en Belgique, en Corse. C'est plein de bouts de villes, de la même grande ville. Et entre, heureusement, il y a des rivières, des montagnes, des endroits où vivre dans la nature.
Sinon, ça pourrait être aussi une forme d'errance rurale, puisque ta référence, c'était l'errance urbaine. Maintenant, tu explores l'errance rurale ?
Alors, je fais de la rurale exploration. Donc je trouve des maisons abandonnées. Mais l'errance rurale, elle est compliquée parce qu'en Creuse, il fait un peu froid quand même. On peut pas... J'ai pas des copains partout chez qui je peux dormir. Je peux pas dire, tiens, je dors là à l'hôtel cette nuit, ou je dors là en camping, ou je dors là au bord de la rivière. Il fait un peu frais.
Et puis peut-être marcher au bord des routes, c'est pas agréable, c'est pas pratique. Il y a des camions, il y a des voitures qui vont vite.
Ouais, et puis les distances sont telles qu'en une journée, je vais difficilement d'un point à l'autre. Je vais difficilement de Bourganeuf à Guéret à pied. Alors je marche encore beaucoup, mais beaucoup moins que quand j'étais exclusivement citadin, bizarrement.
On va peut-être se quitter sur ces idées. Juste pour finir, tu vis en Creuse, hein, à Aubusson. Tu travailles aussi en Creuse. Il y a certaines de tes photos qui sont celles qui sont exposées ici au Fabuleux Destin. D'autres qu'on peut voir sur ton site ou ton Instagram qui sont prises à Feltin, à Moutier-Darin.
J'ai deux autres expos en ce moment. Ouais. Une qui se termine bientôt à l'hôpital du Mont à Aubusson. Et c'est un reportage sur la vie quotidienne à la page de Guéret, donc, qui m'avait été commandé il y a 2 ans et qui a circulé un peu partout en Creuse depuis. Et la semaine prochaine, je décroche une exposition aux ateliers de la mine à Lavavé pour l'accrocher ensuite à Auzance, à la bibliothèque municipale. Et là, c'est une exposition en partenariat avec l'IME de Felletin. Et c'est une éducatrice de l'IME de Felletin qui s'appelle Lara qui m'a demandé si on pouvait exposer les dessins qu'elle fait avec ces jeunes gens à l'IME à côté d'œuvres d'un artiste dont c'est le métier. Et l'exposition, elle s'appelle 24 visages. Et c'est 12 de mes photographies noir et blanc depuis 20 ans, à côté de 12 de leurs dessins de portraits très colorés. Et ça montre encore un autre aspect de mes photos, parce que je montre rarement mes portraits. Donc c'est des fois des portraits de gens que je fais poser, ou des portraits vraiment sur le vif. Je m'approche de quelqu'un dans la rue, je vais vous prendre en photo très près. Et des fois ça marche bien.
Comment tu te projettes? Tu dis ça fait 20 ans que je fais de la photo, t'es peut-être au milieu ou au tiers de ta carrière de photographe, t'as encore 20, 30, peut-être 40 ans de photos devant toi. Comment tu les vois? Qu'est-ce que t'as envie de faire?
Tant que je peux marcher, je peux faire des photos. Après, il y a eu plein de périodes où j'ai eu envie d'arrêter, ça va peut-être re-arriver. Il y a plein de moments où je me dis, quoi ça sert, ou pourquoi je fais ça, ou... Ouais, ça fait un mois que j'ai pas fait une bonne photo, il serait peut-être temps de faire autre chose ou de ne rien faire. Et je pense que si j'arrête, ça serait plutôt pour ne rien faire.
Donc pas de projet, peut-être un livre, une envie de quelque chose de à l'avenir, non? Dans un avenir plus proche que...
Il faudrait que j'arrive déjà à autopublier un fanzine avec une vingtaine de photos, ça serait déjà chouette. Pour que moi-même, je me rende compte de ce que ça fait de le voir en livre imprimé, le tenir dans mes mains. Et puis ça dépend des rencontres. Je pense qu'un bouquin, il faut rencontrer un éditeur ou un galeriste ou quelqu'un dont c'est le métier de créer un bouquin, et que ça se fera peut-être un jour.
Merci. Donc on rappelle que tu as 3 expos, tu viens de le dire en Creuse. Celle qui est autour de nous au Fabuleux Destin, c'est jusqu'au 17 février ou au 20
février. Jusqu'à la fin février.
Ouais. Jusqu'à la fin février. Et les deux autres, ça va se terminer plus tôt.
Ça va se terminer. Et le 4 février, on accroche avec les jeunes de l'IME à la bibliothèque d'Auzance.
Ok. Merci, Nathanaël.
Merci, Ziad.